architecture mentale.
Cet épisode d'Architecture mentale vous est présenté par Kombu. Si vous voulez profiter de tous les bénéfices du kombucha sans avoir l'impression de boire du jus de champignon, essayez Kombu. Kombu, c'est la boisson vivante la plus accessible et la moins chère sur le marché avec 4 saveurs hyper faciles à boire. C'est aussi une façon d'avoir un petit kick d'énergie sans avoir à ingérer 3 tonnes de sucre. Visitez kombudrinks.com pour commander en ligne et entrer le code promo architecture mentale en un mot au moment de passer la commande pour bénéficier d'un rabais de 10%. C'est au kombudrinks.com et le code promo, c'est architecture mentale en un mot. OK gang, bon podcast.
Imagine comment c'est challengeant pour un conjoint quand la personne que t'aimes fait un volte-face, pam, toi, un gros 180, moi, je suis quelqu'un d'autre finalement, là, puis c'est mm-hmm. le ça que je veux être. Fait qu'il a fallu créer, j'appelle ça perdre pour tout gagner, là. J'ai, mm-hmm. pas eu peur de ça. La seule affaire, j'ai peur réellement, Sylvain, c'est mes enfants, leur santé, leur sécurité. Mais le reste, là, c'est juste des peur là, de jugement. Ça, là, ça se défait. La peur pour la sécurité de mes enfants, là, j'ai pas le contrôle. Ça me fait peur. Ça fait peur.
Je pense que c'est sain que ça fasse peur aussi, dans le sens que protéger la sécurité des gens, c'est comme...
C'est ma seule vraie peur, c'est ça. Mais le reste, j'ai pas eu peur de tout décalisser ma vie. C'est vraiment ça qui est arrivé. Okay. Parce que j'avais un appel plus grand de quelque chose qui était vraiment vrai pour moi. Puis à partir du moment où j'ai pris la décision, où je me suis permis d'être vraiment moi, il a fallu que je divorce, non pas seulement de mon conjoint, mais des parties de moi qui étaient comme cimentées dans cette relation-là pour pouvoir recréer qui je veux être.
Vous écoutez Architecture mentale parce que vous voulez apprendre à vous connaître et vous maîtriser pour arriver à vous construire une vie à la hauteur de vos rêves. Je m'appelle Sylvain Decarufel et aujourd'hui, mon invité est championne nationale de cheerleading acrobatique, danseuse professionnelle et interprète en langage des signes. Elle a fondé les entreprises Studio Amplitude, Elonora et Vibrasing qui œuvrent respectivement dans les domaines de la mise en forme, des produits de beauté et du langage des signes. Elle est une bombe d'énergie et de motivation et elle fait partie des plus importants coups de pied dans le derrière que j'ai eu pour partir ce podcast-là et tous les autres projets qui l'entourent. Chloé Blanchette, bienvenue à Architecture mentale.
Merci de l'invitation, Sylvain. Très cool.
C'était un immense plaisir. C'était comme ça allait de soi là, qu'il fallait que je t'invite là.
Je suis vraiment contente. C'est mon premier podcast.
Ah, pour vrai, c'est la première fois que tu comme t'es interviewée?
Ouais. Pour vrai, j'avais un léger stress parce que je partage beaucoup de contenu. Tu sais, je suis comme créatrice de contenu. Je pense que le terme, c'est micro-influenceur. Mais là, c'est comme mm-hmm. ça. Là. Et tu sais, je me gère moi-même avec mon cerveau. Je décide qu'est-ce que je dis. Si j'aime pas la take, je la refais. Alors là, d'être interviewée comme ça, ça me générait un genre de « wouh! » Ah oui, on va voir si je vais bien faire ça. Je sais pas.
Ben écoute, je vais te confier que c'est toujours... Tu sais, je me suis dit, quand j'ai parti le podcast, j'étais tout le temps comme, ah, ben, ça va être cool, je vais juste comme jaser avec du monde, puis ça va être relax, puis écoute, à chaque podcast, même toi, surtout toi, en fait, je suis stressé à chaque fois. Je suis tout le temps comme, ah, man, OK, tu sais, on va-tu manquer de choses à dire, je vais-tu poser les bonnes questions, je vais-tu, tu sais, fait que c'est tout le temps un stress, mais tu sais, manquer de choses à dire avec toi, ça me surprendrait beaucoup.
J'avoue que j'aime bien parler.
Moi avec. All right. Ben, justement, on va aborder ce sujet-là parce que, tu sais, je te connais depuis longtemps, mais pas beaucoup dans le sens que, tu sais, t'as travaillé beaucoup avec ma blonde, puis t'as comme. Fait que je sais t'es qui depuis longtemps, mais ça fait comme peut-être quelques mois qu'on interagit un peu plus, là, tu sais.
Mais c'est quoi? Genre, tu dis ça, puis je me dis, moi aussi, je sais je suis qui depuis pas longtemps.
Wow!
Sérieux, t'as dit ça, puis j'étais comme. Ouais, ça fait pas longtemps que je suis qui, moi aussi. Fait que c'est full pertinent ce que tu dis.
Hey, fuck ma question. Et développe là-dessus.
Hey! OK, hey, mon Dieu, par où je commence? Par où je commence? Vas-y, ta question, on va voir. Ça
OK,
va
OK. Mais peut-être que ça va t'amener vers ça. En fait, ma question, c'est parce que de l'extérieur, t'es une personne excessivement motivée, drivée. T'es dans panne. Puis... La question, c'est qu'est-ce qui drive à être comme ça, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que tu te sens comme ça?
Oui, je me sens comme ça. Puis, Souvent, moi, je suis beaucoup dans l'autre. Là. Souvent, je me mets dans l'autre. Je me sens que c'est sûr que les gens jugent ça. Ils disent, ça se peut pas quelqu'un qui a tout le temps de la drive. Ça se peut pas quelqu'un de bonne humeur comme elle. T'sais, les gens me le disent pas. Mais moi, souvent, je me mets dans l'autre. Je me dis, c'est sûr que j'ai un jugement. Il y a des gens qui disent, ça se peut pas cette fille-là à fake. Ça peut pas être tout le temps motivée. Mm-hmm. Mais pour moi, Sylvain, j'ai quelque chose en dedans de moi d'inexplicable qui fait que même si je me plante, ça me dérange pas, je me relève, si je fais autre chose. Il y a une drive naturelle. Je pense qu'il y a une part de naturel, puis il y a une part de... j'ai grandi dans une famille avec 6 frères et sœurs.
Okay.
Donc ça, ça fait partie vraiment de mon gros bagage là, d'architecture mentale. Là. Parce que quand tu as 6 frères et sœurs dans une société où les familles sont plus petites, tu as un frère ou deux. Tu sais, la moyenne à mon âge, quand j'étais au primaire, j'étais la seule là, qui avait 6 frères et sœurs à écrire sur la... Il y avait juste tout à 2 lignes. Écris tes frères et sœurs, il y a 2 lignes. Même moi, j'en avais 6. J'étais la seule, tu sais. Fait que, puis en plus de ça, ben, mon frère le plus jeune et ma sœur aînée, les deux, ils sont sourds de naissance. Fait que, automatiquement...
Ah, t'en as deux! Ah, oh, ouais, okay, ouais, OK. Fait que je savais que Jérôme était sourd, mais OK. Okay.
Ma sœur aînée, Fanny, elle est sourde, puis Jérôme, lui, il s'expose plus, fait que c'est pour ça qu'on le voit plus dans les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, je le plug si ça te dérange pas, mais je
vais Oh non, pour vrai, moi, je commence à le voir, Jérôme, je connais pas personnellement, mais je le vois sur les réseaux sociaux, puis il a une personnalité extraordinaire, ouais. C'est vraiment cool, pour vrai.
Ouais, ben, j'invite les gens à le découvrir, bientôt, il va lancer un super projet, mais juste pour sa joie de vivre et sa résilience infinie, là, je vous invite à aller découvrir Jérôme Blanchette. Il est un clown humanitaire, il travaille avec Guillaume Vermette ici à Trois-Rivières, qui est quand même... une sommité, là.
Oui, ben oui, ben oui, que je veux avoir sur le podcast. D'ailleurs, Guillaume, si tu regardes ça, je te veux, man.
je te le répète. Je vais le dire à Jérôme qui passe par là. Bon. Fait que, bref, en ayant eu Fanny, qui est mon aînée de sœur, qui est la première de la famille, moi, je suis la deuxième. Après ça, on a eu 5 frères et sœurs plus jeunes. Je pense que ça, il y a une résilience d'imprimer en moi, que je le veuille ou pas. C'est ça, c'est de cette façon-là, moi, que je l'ai vécu. Fait que peut-être que le fait que j'ai pas peur de me planter, que pour moi, c'est pas grave si mon projet a pas été extraordinairement successful. J'ai la résilience de faire, je vais réinventer, je vais recréer autre chose. C'est pas grave, ça a été une contribution. Puis je passe à autre chose. C'est peut-être pour ça que je suis tout le temps motivée, c'est que ça me dérange pas de recommencer. Ça me dérange
wow.
pas.
Okay.
Je sais pas.
Okay. Tu sais pas? Ben, on va le savoir parce que moi, je vais te creuser. C'est ça le concept de l'émission. mais en même temps, j'ai l'impression... Écoute, parce que je travaille avec Jasmin aussi, qui est un autre de tes frères, tu sais. Puis moi, en découvrant Jasmin, Jasmin, c'est un autre hostie de malade dans la tête, là. C'est quand j'ai découvert ce gars-là, j'ai fait comme, OK, man, il y a une drive, il mord, il rentre dans la vie comme une brute. Fait que, c'est-tu comme une culture familiale? Êtes-vous toutes comme drive-it même? Y a-tu...
Mais c'est nouveau! C'est nouveau que là, ça se perçoit d'un point de vue entrepreneurial. C'est comme si on a eu un déclic dernièrement. Là, parce que je veux pas avoir grandi avec 6 frères et sœurs. T'as pas beaucoup de temps de parole dans une famille de 7 personnes.
Wow! Enfin, OK, ça c'est hot! Okay.
T'as pas de temps de parole. Et quand t'as ton tour... Tu vas te garrocher pour être entendu, être reconnu, être vu. Puis, tu sais, quand on est enfant, on va être vu par nos parents.
Oui, 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 absolument.
Fait que je pense qu'on a tout un peu pris notre trou. Puis, on s'est développé chacun de notre bord. Et là, tout à coup, je trouve que dernièrement, peut-être parce que là, on se rapproche tous, on a au-dessus de 20 ans toute la gang, là.
Mm-hmm.
C'est comme si là, les graines semées viennent toutes de faire comme, hey, j'ai mon identité à moi, je suis pas obligée de me fondre dans la masse. Comme les 6 autres. Moi, je vais développer mes affaires. Moi, je fais les... Fait que là, je vois mon frère Jas qui est en train de s'émanciper big time dans la musique.
Ouais, c'est écœurant. Pour vrai, son projet, c'est tellement béton. Là. Il vient juste de commencer puis ça lève déjà. Là. Ça me fait capoter raide.
Il y a une énorme contribution là-dedans. C'est vrai.
Je l'espère.
Ensuite de ça, mon frère, même affaire, l'année passée, lui aussi, grosse révélation, mon frère Renaud a lancé son entreprise de boulangerie artisanale. Alors, il fait du pain, des bagels, blablabla. Il fait ça, puis c'est ça qui est cool, puis je vais m'en aller vers ça, là. C'est que dans notre famille, on est tous un peu des autodidactes. Tu sais, là, moi, Renaud, il a pas fait de formation de boulanger. Il apprend sur le tas. Jasmin, en musique, il a pas fait des études en musique. Il apprend sur le tas, mais tu sais, ça marche. Il est
oui,
bon.
Ben oui, ben oui.
On tient ça beaucoup de nos parents. Je pense, mon père, il y a une compagnie qui s'appelle Groupe Multiconseil. Là. Fait que tu vois, lui, c'est un multitâche. Multi, ça fait partie de notre, peut-être de notre ADN.
Ouais, c'est ça, parce que votre père, c'est un entrepreneur, dans le fond. Là.
Ouais, écoute, mon okay. père, tu sais, là, tu me fais remarquer que je suis pas mal les traces de mon père. Mon père, il a travaillé dans tellement de domaines différents. Et là, aujourd'hui, il a 60 ans, puis il est exactement là où il veut être, puis il continue de bâtir. C'est comme si tout ce qu'il a fait dans son histoire fait qu'aujourd'hui, il est solide dans ce qu'il fait parce qu'il a touché à tout, il a développé des compétences dans chaque domaine. On dirait qu'on va vers ça. En plus, c'est un peu ça que je suis en train de faire.
C'est vraiment hot. C'est cool que le point que tu as touché de dire que le fait de ne pas avoir beaucoup de d'espace de parole quand t'es jeune, en fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient comme une espèce de besoin criant de t'exprimer, ouais. tu sais. Est-ce que t'as le feeling que... comment je te dirais bien ça? Que ce qui peut être un... En fait, je vais poser la question, c'est d'y répondre, mais je veux voir c'est quoi ton input là-dessus. Que ce qui peut être une situation embarrassante dans le passé, ce qui peut être quelque chose de vraiment très inconfortable, peut... devenir ta plus grande force.
Ouais, le moteur. Mais il faut en être conscient parce que ça pourrait virer de l'autre bord aussi. Ça pourrait, j'aurais pu choisir, bon, tu sais, moi, j'ai pas vraiment été vue, reconnue, j'ai pas vraiment, tu sais, fait que je vais juste vivre ma petite vie puis je dérangerai pas, tu sais, j'aurais pu tourner vers ça. Mais c'est pas ça qui. Il y a un feu bouillant inexplicable qui... C'est comme si je suis protégée par je sais pas qui, pas quoi. Mais il y a un feu qui me dit « Claude, t'es pas venu ici pour que ce soit long puis plat. T'es pas venu ici pour être dans un petit moule. » Fait que ça, c'est tout le temps une drive. Tu sais, tantôt, tu disais par rapport à grosse famille. Ce qui fait aussi que je pense que j'avance, ça vient de là parce que quand t'as 6 frères et sœurs, t'as pas de place pour ton ego. T'as pas le temps de faire moi mes besoins.
Ouais,
ta mère, là, elle a 7 flots, là, entre 0 et 11 ans, là. Fait que tes besoins à toi, tu vas t'apprendre à gérer. T'as pas le choix, puis c'est pas de la malbienveillance de la part des parents, c'est plus sont surloadés.
Exact, ils ont pas le temps. Exact.
Fait que moi, ça m'a développé mon côté très, très autonome tôt. Et ça fait que je tasse mon ego. T'sais, mes besoins à moi, j'ai une aisance, une facilité de les tasser pour aller juste dans le « qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser ici maintenant? » Tu sais, je me suis tout ramené au plaisir dans mes choix. Fait que ça, c'est gros. Puis tu sais, parlant de ça, tantôt tu disais « est-ce qu'une affaire qui est un irritant ou une blessure d'enfant devient ton moteur? » Quelque chose qui est particulier dans mon histoire, c'est qu'étant donné justement qu'on est 7, là, puis moi je suis la deuxième, puis ma sœur aînée est sourde, alors automatiquement je suis comme devenue l'aînée. Moi je suis devenue une passionnée, là, Sylvain, d'aller lire sur l'impact que ton rang dans ta famille a sur ton développement de ta personnalité. OK, ça là, j'adore.
Développe là-dessus, c'est malade ça.
J'ai tout lu qu'est-ce qui se faisait là-dessus. Souvent, dans les textes que tu vas trouver, ils vont parler de 3. Tu sais, quand tu as une famille de 3. Bon, l'aîné va souvent être celui qui est sérieux parce qu'il va avoir eu la rigidité de ses parents qui étaient nouveaux. Et lui, il prend les décisions, il suit les règlements. Le deuxième de famille, ça va être souvent lui qui va être un peu comme... pas oublié, mais le syndrome de l'enfant du milieu, ça, on connaît ça, c'est connu, là. Et le troisième, ça va être le funné. Il est comme tout le temps plus... Bon, et moi, j'ai lu tout là-dessus. Moi, en ayant 7... C'est comme si je deviens l'aînée avec ma sœur aînée, étant donné qu'elle est sourde. Tu sais, quand on vient à l'âge qu'il faut garder les petits frères et les petites sœurs, ben là, moi, j'ai pris le rôle de parent jeune, OK? Et moi, c'est vrai que j'allais en thérapie pour ça. J'allais en thérapie pour ça parce que, sans le vouloir, et ici, je tiens à souligner, parce que mes parents vont regarder ça, et c'est un sujet qui a déjà été abordé avec eux, c'est quelque chose qui est réglé, qu'on a fait la paix, et que je n'ai aucune hargne ou sentiment lourd face à ça. Mais... il y a le syndrome de l'enfant parentifié. Ça, là, ça l'a défini toute ma vie, Sylvain.
D'une façon positive ou négative ou un peu des deux?
Il y a eu plusieurs phases. Okay. Tu sais, il y a eu la phase, je suis un enfant, je me valorise dans le rôle que j'aide ma mère, que j'ai le syndrome un peu du sauveur. Je suis comme, yes, ma mère, elle a besoin, je suis là, je me valorise. Alors, il y a ma période enfant où j'ai adoré être une excellente co-maman, même si c'était pas vraiment mon rôle à cet âge-là.
Pas un rôle officiel, mais tu l'as interprété comme ça.
Oui, mais ça m'a valorisé, puis j'étais heureuse à ce moment-là. Dans le moment présent, c'était parfait. Puis là, il y a eu la phase à l'adolescence, là, où j'ai compris, hey, les autres de mon âge, là, Eux autres font pas du lavage en revenant du secondaire 2, là. T'sais, ils font pas de brasser, là. Ils font pas le souper, là. Eux autres. Là, j'ai eu une phase un peu, non pas rebelle, mais un besoin de faire comme, hey, mon Dieu, je pense que je suis pas comme les autres. J'ai compris à cet âge-là, vers l'adolescence, je me suis pas rebellée d'une façon extrême, mais c'était plus dans de l'anxiété, le besoin d'être vu, le besoin d'être quelqu'un à ma propre identité, puis le besoin que mes parents comprennent que ça me tente plus d'être une mère, finalement. Tu sais, j'aimais ça à 7, 8, 9, 10 ans, mais à 11 ans, ça me tentait plus. Ah, ça me tentait plus. Fait que j'ai eu ma phase un peu rebelle. Et là, tout ça m'a conduit à avoir des enfants extrêmement jeunes, par choix, parce que j'avais hâte. Tu sais, souvent, on répète les moules de ce qu'on connaît. Hein, avec...
Oui,
moi, j'étais une bonne mère. J'étais une bonne mère à 7, 8 ans. Et j'ai voulu être une mère rapidement. Et après ça, j'ai eu mes enfants, j'ai été extrêmement heureuse. Et boum! Là, il y en a qui appelleraient ça crise de la trentaine. Wow, moi, j'appellerais ça éveil spirituel. Là, j'étais vraiment dans le besoin de m'émanciper en tant qu'humaine, en tant que gestionnaire de projet, en tant que plein de potentiel en dehors de ce que je peux accomplir.
À quelque part, l'espèce de besoin de décider pour toi, parce que t'as comme toujours pris tes décisions en fonction des autres, j'imagine, jusqu'à cet âge-là. Fait qu'à Mané, c'est comme, OK, dude, moi aussi, j'ai des désirs, j'ai des besoins, je peux-tu les mettre de l'avant, tu sais?
Puis, tellement, puis, mais...
Il a fallu que je consulte.
Ouais, mais tu sais, tout ça, là, c'est un process. Là. J'ai consulté pour aller comprendre, mettre des mots sur ça, l'enfant parentifié. Parce que moi, je connaissais pas ce terme-là à ce moment-là de ma vie. Je l'ai vécu. Moi, je savais pas que ça avait un nom, là, tu sais. On appelle ça enfant parentifié. Puis c'est vraiment pas, dans mon cas, d'autres histoires peuvent être différentes. Mais dans mon cas, c'était pas de la mauvaise intention de mes parents ou un manque de présence. C'était juste... C'est arrivé.
C'était juste 7 enfants dans la même famille à un moment donné.
Là, moi, j'en ai 3. Puis des fois, je me sens overloadée.
Ah, ouais,
je peux pas imaginer mes parents avec 7, comment ça devait être incroyable. Là. Plus 2 avec une surdité qui avait des besoins particuliers.
Mm-hmm.
Mais fait que là, je suis allée en thérapie, c'est pas, puis vraiment là, psychologue. J'ai commencé par ça. Okay. Tu sais, souvent, on commence. Parce qu'on connaît. Moi, à ce moment-là, j'étais pas très coach de vie, tout ça, je connaissais pas ça.
Je veux souligner ça. Le fait que tu aies été chercher de l'aide psychologique, ça parce que. OK, c'est un statement que je vais faire, c'est juste parce que. Il y a une espèce de croyance dans le domaine de la croissance personnelle que. Si tu te connais bien, t'as pas besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Puis je trouve ça tellement erroné parce que c'est comme de dire qu'un athlète olympique a pas besoin d'avoir un coach, un athlète olympique a pas besoin d'avoir un nutritionniste. Voyons, c'est au contraire, tu sais. Si tu veux te développer adéquatement, il faut que t'ailles chercher un œil extérieur, il faut que t'ailles chercher une expertise. Puis est-ce que toi, quand t'as fait ça, t'avais-tu un blocage à faire ça que t'as transcendé ou t'as fait comme « alright, moi j'y vais, ça va être cool ».
Non, c'était vraiment, comme je te dis, le genre de feu bouillant de « tu resteras pas pris, là, Chloé, là ». Genre, tu le fais, là, tu y vas. Mm-hmm. Puis, autour de moi, et là, je peux même parler en incluant mon conjoint, lui, il trippait moins. Sur l'idée, il trouvait que ça servait à rien. Fait que dans mon entourage proche, pas tout le monde qui était d'accord, mais moi, je sais pas.
Est-ce que t'ailles consulter?
Ouais.
C'est donc bien drôle. Il y a du monde que t'as pas besoin de ça, Chloé.
Ouais.
C'est weird!
Ouais, c'est weird.
Toi, c'est le contraire. C'est comme tu devrais aller consulter, puis la personne, elle résiste bien raide. Ouais. Fait que toi, tu voulais y aller, puis les autres, t'es comme, ah, t'as pas besoin de ça.
Ouais.
Holy shit, OK.
Mais dans cette situation-là, c'est que, tu sais, moi, Sylvain, avant d'aller faire tout ça, là, avant d'être qui là, je suis capable d'être aujourd'hui, là, j'étais tellement dans l'anxiété, là. Anxiété, une anxiété qui me figeait. J'étais dans la peur du jugement des autres, mais souvent, j'étais dans la peur de mon jugement et que je me suis jugée souvent en pensant que c'était les autres, mais c'était tellement moi qui se jugeais. J'étais dans la grosse peur du jugement qui venait de ma peur de déplaire, de déranger. Ça, c'est mes peurs, là, mettons, que j'ai identifiées avec les années, qui étaient les plus prenantes, qui me cimentaient les jambes de me déployer dans des projets parce que je me disais, si je vais outside the box, est-ce que je vais encore être aimée, mon désir d'être aimée? Qui me ramène à mon désir d'être vue par mes parents? Tu sais, tout ça part, là. Puis on gratte l'architecture mentale, là. Moi, c'était ça, mes bobos, le besoin.
Je relate tellement. C'est exactement ça. Je pense que je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, tu sais, dans le sens, quand tu pars un nouveau projet, t'as peur du jugement des autres. Comme tu dis, t'as peur de ton jugement. Puis, à un moment donné, se libérer de tout ça, c'est comme essayer de sortir d'une toile d'araignée, tu sais, parce que les autres vont te juger. Tu sais, c'est pas juste comme une peur, c'est comme ça va arriver pour vrai. Fait que quand t'as la preuve, tu sais, quand tu sors, tu décides de faire un projet qui te tient à cœur, puis que tu reçois soit que tu reçois des commentaires désobligeants, mais moi je trouve que le ricanement là, tu sais, juste comme ça là, ça c'est la pire affaire. Tu sors quelque chose puis tu sens comme juste un petit commentaire un petit peu comme une petite connerie qui a l'air inoffensive mais qui vient juste mettre un esti de doute dans ta tête là. Ça c'est la pire des choses, tu sais.
Oui. C'est toi qui m'as envoyé Grant Cardone là, tu m'as envoyé ça une fois, puis sa première phrase c'est ça, c'est doubt is the dream killer.
Littéralement, et c'est facile à dire, tu sais, mais c'est comme c'est vraiment quelque chose à défaire. Puis toi, de quelle façon est-ce que tu t'es libéré de ça, de l'opinion des autres?
Mais il a fallu avant tout là que je consulte. Ça a été la première étape d'aller voir un psychologue, parce qu'avant d'aller pouvoir s'émanciper, il y avait une couple de couches de poussière à aller faire du ménage.
Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par ça?
Tu sais, c'est-tu dans les boys qui dit ça? Le trésor dans ton cœur, ta magie, ta puissance, ta lumière, là, il est caché en dessous beaucoup de poussière. Il y avait beaucoup de poussière à l'étasser. Fait que la poussière étant la peur du jugement, il a fallu que je le dise. Puis que je prenne conscience, hey, moi, je pense, hey, je suis un enfant parentifié, mais j'ai une capacité spéciale, Sylvain, à regarder ma vie dans une position d'observateur, ce qui me sort de l'ego.
Oui, c'est la base de tout. C'est la première habitude à développer, c'est d'être capable de te regarder de l'extérieur, parce que sinon, t'es direct dedans et tu peux pas rien changer tant que t'as pas ce step-back-là. Est-ce que t'as ça naturellement ou t'as travaillé à le développer?
Je pense qu'il y a une aisance. Je le développe à tous les jours, là, mais il y a quand même une aisance qui me provient de ce que je te disais tantôt, d'avoir pas un gros ego. Des fois, j'ai de l'ego dans des endroits où je suis, en tout cas, je suis dans l'ego en ce moment, what the fuck. Mais en général, sur l'ensemble de ma vie, j'ai une aisance quand même à sortir de moi et à me voir. Puis à faire comme « Ah! » J'observe, sans charge énergétique, sans les blessures, sans le passé, le mental. Là, je fais juste regarder « Ah! Ben moi, je suis un humain qui est né dans une famille de 7 enfants, qui a vécu une enfance comme enfant parentifié, qui a développé de l'anxiété de performance, qui s'est un peu réprimé, qui était gêné, mais qui a tout à eu un genre de « Ouais, mais je le sais qu'à quelque part, j'ai quelque chose de plus. » Mais je voulais pas, parce que je voulais pas avoir l'air égoïste. Parce que quand t'as 6 frères et sœurs, là, et God, tu veux pas être l'égoïste, là, tu veux être généreux, tu veux être présent, tu veux donner. Il fallait que je défasse bien des croyances.
Exact.
Fait que je pense que cette capacité-là à me mettre dans l'observateur, aller voir un psychologue, ça m'a vraiment aidé de faire comme, bon, là, je suis dans moi, je parle juste de moi. Puis pour moi, faire ça, là, Sylvain, là, c'était difficile de faire comme, OK, je vais m'amasser, puis quelqu'un va m'écouter une heure. J'étais habituée de recevoir les autres, pas de parler de moi pendant une heure. Fait que c'était dur. Ça a été l'affaire la plus dure d'aller consulter, c'est de faire comme, je vais parler de mes problèmes. Alors que moi, mon père m'a tout le temps appris qu'on est mieux de faire partie de la solution que du problème. T'sais,
ouais, okay, je comprends le...
Ça, mon, qui était comme, c'était imprimé. Mon père, il a pas le temps pour les problèmes, il a juste du temps pour les solutions. Mm-hmm. Et ça, là, moi, j'ai été vraiment drillée de même par mon père. Fait que ça, c'était là, mais à un moment donné, j'avais pas le choix de face les problèmes, les blessures.
Sinon, ils vont grossir, là, tu sais.
Je serais restée en pris là. Fait que là, allez chez le psy, bang, on enlève les couches de poussière. Ah, prise de conscience, je suis un enfant parentifié. Mais est-ce que je garde l'émotion lourde? Je la vis, je la broye, je fais whatever I need, je la danse. Mais après, j'en suis libérée, puis là, je peux faire, bon, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? À cette heure, de quelle façon ça peut devenir extraordinaire, puis une contribution, un moteur, tu sais? Mm-hmm. Fait que oui, là, écoute, j'ai l'air de faire la grosse promotion des psys, mais moi, ça a été...
Faisons la promotion des psys aussi. Il n'y en a pas assez. En fait, là, je sais que là, présentement, il y a une pénurie parce que les gens vont consulter, mais ça a pris tellement d'années. Puis il y a toute une génération aussi. Je pense que nous autres, étant plus jeunes, on a plus d'ouverture à aller consulter. Mais pour les gens, mettons, qui ont 50 ans et plus, c'est souvent les fous qui vont consulter des psychologues, tu sais, puis de briser cette espèce de stéréotype-là, tu sais, à la limite de l'aborder comme... comme une hygiène, t'envoies ton char au garage, va faire un tour chez le psy, check tes affaires, parce que c'est plus que j'étudie ça, tu sais, moi je suis vraiment je lis beaucoup d'ouvrages psychologiques puis de croissance personnelle aussi, mais j'aime ça regarder des podcasts avec vraiment des psychologues certifiés puis tout ça, puis ce que je me rends compte, c'est que l'esprit est infiniment plus complexe qu'on pense. T'sais, c'est incroyablement complexe. Puis ces gens-là qui ont fait un doctorat en psychologie, fuck man, ils l'ont approfondi en malade. Fait que t'as beau te connaître au maximum de tes capacités, cette personne-là, elle connaît l'universalité de l'esprit humain autant qu'on peut la connaître. Fait que c'est sûr qu'elle a des cues pour toi. C'est sûr qu'elle a des façons de voir. Est-ce que t'as cherché ton psy ou ben est-ce que ça a été un match le premier coup? Parce qu'il y en a. OK, cool. Parce que...
Je dis souvent, Sylvain, puis moi, je n'ai pas abordé encore, mais j'ai un côté spirituel, ouverture de la conscience très large, là, très ouvert. Puis j'ai le concept des anges terrestres, là, OK? J'ai tout le temps l'impression que les humains, il y a les bons humains qui sont placés sur mon chemin. Je sais pas si c'est de la chance, je sais pas si je les attire. J'ai envie de croire qu'on les attire, là. J'ai envie de croire ça, mais c'était la bonne personne au bon moment. C'était exactement ça qui était requis. Ça a été magnifique. Puis elle m'a mis en lumière que je me jugeais. Moi, ça a été ça, Sylvain. Quand j'ai compris que les autres, ils vont nous juger, whatever, là, ça va arriver. Mais que si moi, je me juge, c'est, je suis la seule personne qui m'empêche d'avancer. Puis je le savais pas que j'étais pour aller faire cette prise de conscience-là. Puis c'était ça qui allait me donner la permission de me déployer après. Mais elle m'a dit souvent, tu te rends-tu compte comment tu te juges? Elle me l'a dit tellement souvent. Je pense que j'allais avoir 20 rencontres, là, 2 shots de 10 séances. Tu te juges. Puis j'aurais jamais pensé que juste de prendre conscience que c'est moi qui se juge. C'est pas les autres. Les autres qui me jugent, à la limite. Ça me fait pas grand-chose au final, mais que moi, je me jugeais, ça me sciait les jambes. Fait que ça, là, ça a changé ma vie. Ça a comme fait, toutes les fois que je pense que je suis jugée, je me pose la question, c'est-tu moi qui est en train de me juger?
Absolument. Moi, ce que je me suis rendu compte par rapport à ça, c'est que je me jugeais en... Attends, je vais essayer de le dire dans les bons mots. Je me jugeais en... weaponizing, je sais pas comment dire ça en français, là, mais en weaponizant les autres personnes. Autrement dit, j'utilisais les gens de mon entourage comme une arme pour me juger moi-même, OK? Je m'explique, c'est que, par exemple, je dis n'importe quoi, mon cousin a tendance à traiter... j'ai même pas un cousin en tête, là. Martin, si t'entends ça, c'est pas de toi je parle. mais mettons que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui... dans mon entourage proche, qui a tendance à traiter les artistes de feluettes, mettons, là, de gens fragiles, par exemple. Ben, quand je vais avoir un comportement artistique, ben là, je vais comme prendre le genre de vocabulaire de mon cousin. Pis ça a pris vraiment... Ça, c'est une jasette avec un de mes amis. À un moment donné, on a pris une marche d'une journée complète à l'île Saint-Quentin. Puis on s'est mis à jaser. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, on parlait de l'auto-jugement. Puis à un moment donné, je dis, hey, quand je me juge avec le vocabulaire de cette personne-là quand je parle de ce sujet-là. Mais quand je juge tel autre aspect, je parle de cette personne-là. Fait que, autrement dit, c'est comme si j'avais acheté. J'avais endosser l'opinion que ces gens-là ont habituellement, puis je les ai intégrés comme une partie de ma personnalité à mon insu, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, ce n'est pas mon... Mais quand je le réfléchis de façon cartésienne, c'est pas mon opinion. Je ne crois pas, comme, par exemple, tu sais, j'ai du monde dans mon entourage musicalement qui n'aime pas généralement la simplicité musicale. T'sais, une tune à 3 accords, c'est comme généralement systématiquement de la merde, tu sais. Puis, à un moment donné, je composais, il y avait une tune à 3 accords qui sortait, puis là, je jugeais la tune, tu sais, mais quand je la regarde de façon objective, avec mon goût à moi, je l'aime la toune, moi, avec 3 accords, je l'aime de même, mais on dirait que je me refusais le droit d'aimer ça parce que ces gens-là, je les admire, parce que ces gens-là, je les estime. Fait que ça a été c'est de cette façon-là de dire comme je me libère de ces 3-4 personnes-là qui me jugent tout le temps. Puis qu'en bout de ligne, dans la vraie vie, ils s'en calissent de moi, eux
autres. Exact. Ça, là, écoute, j'ai à peu près 800 choses qui ont popé pendant que tu disais ça, là. Mais ce qui m'appelle à dire que, tu sais, t'es un hyper empathe, probablement, toi aussi, Sylvain, là. Mm-hmm. Ça, c'est une autre affaire que ça m'a permis de prendre conscience OK, je suis une hyper empathe, puis une hyper sensible, mais une high sensation seeker. Ça, c'est quelque chose qui existe, tu peux aller lire là-dessus.
Okay? Ah, t'es pareil comme moi.
Bon, on est des hyper empathes, hyper sensibles, à la recherche d'émotions fortes, de changements, de démarrage de projets. Et dès que la high sensation descend, oh là, on a besoin d'aller revivre de l'adrénaline, parce que souvent, on drop le projet et on change de projet. Là, c'est quelque chose que je veux moins faire, étant donné que je sens que j'ai trouvé exactement ma mission, ma voie du moment présent. Je ne me fermerai jamais au fait que demain matin, je peux avoir changé d'idée. Mais si je te parle ici et maintenant, je sens que là, je suis rendue à un moment de ma vie où j'ai fait des ongles dans la vie. J'ai technicienne en pose d'ongles. J'ai ouvert une garderie en milieu familial. J'ai ouvert une école de langue, d'enseignement de la langue des signes. J'ai tellement fait d'affaires. J'ai vendu des produits. Écoute, il n'y a rien que je n'ai pas essayé. Puis dans tout ça, ça m'a pris, là j'ai 30 ans, ça m'a pris juste là pour me rendre compte que je suis une entrepreneur depuis tout le temps, mais moi j'appelais ça travailleur autonome. C'était moins commitment de dire « Ah, je suis travailleur autonome » que d'être capable de sortir du sentiment d'imposteur pour faire « Hey, tout ce que j'ai fait là, c'était comme entrepreneur. J'ai bâti des business, j'ai fait le marketing moi-même, j'ai fait la promotion, j'ai tout fait. » Mais c'est récemment là, que j'ai été capable de quitter le sentiment d'imposteur pour faire comme « OK, j'étais un entrepreneur même, puis je le savais pas. » Parce que c'était tout le temps juste des projets. Tu sais, moi, je voyais ça. « Oh, projet, 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 projet. » Je me permettais pas de faire comme « Fucking grand, là, qu'est-ce que je viens d'accomplir, là? C'est gros, là! » Fait que c'est nouveau pour moi, ça, de... Ouais.
C'est vraiment hot. Tu parles du sentiment d'imposteur. Je pense que ça va avec aussi, tu sais, dans le sens que je parle de tout ça. Je sais pas si tu as vu le premier podcast que j'ai fait d'architecture mentale avec Yannick, avec Yannick Latendre. Tu sais, lui, ça en est un que le sentiment d'imposteur, c'est comme ça lui est étranger au point où est-ce que il s'est garoché dans des entreprises qui connaissent absolument rien. Là. Il a comme, à un moment donné, il s'est dit « Ah, il y a de l'argent à faire dans les decks de piscine. Oh, » Il avait genre 15-16 ans, il s'est mis à faire des decks de piscine. C'est comme... Il n'avait jamais fait ça de sa vie.
Sais-tu, est-ce que tu connaissais les quatre phases d'apprentissage de Maslow et non pas la pyramide de Maslow?
Non, c'est-tu comme l'incompétence
inconsciente? Ouais! Mais je pense que ce que tu décris de Yannick, lui, c'était une compétence inconsciente qui était dans l'automatisme. Et comme il sait qu'il va être compétent, puis il n'a pas besoin de se poser plus de questions. Puis c'est ça qui fait que c'est roule.
Puis c'est ça, puis c'est pas, autrement dit, c'est pas dénué de stress, là, ce processus-là. Tu sais, comme il dit, la journée où il pogne un contrat, Yannick, il va passer la nuit à étudier, puis là, il est stressé, puis ça va pas bien. Mais autrement dit, il ne croit pas. Tu sais, on se sent imposteur, mais. Je pense que j'ai l'impression qu'Yannick, il ne croit pas au posteur, dans le sens que, tu sais, tout le monde a la légitimité de tout faire, tu sais, à quelque part, dans une certaine mesure, tant que le résultat est là, tu sais. C'est un peu, comme j'ai du monde autour de moi qui œuvrait dans le milieu de la croissance personnelle, tu sais. Puis moi-même, ça a été tout un step de me lancer dans ce domaine-là, qui est ma plus grande passion. Mais j'avais du monde autour de moi qui s'était lancé là-dedans, puis que je leur posais un certain jugement, tu sais. Jusqu'à temps que je réalise que leur méthode n'est pas la mienne, mais ils ont des résultats concrets. Ils ont des clients qui sont satisfaits. Fait que c'est pas des imposteurs. La question, c'est si tu vends quelque chose puis que les gens sont pas satisfaits, là, t'es un crosseur, là, t'es un imposteur. Mais sinon, si le résultat est là, que tu te perçoives comme une entrepreneur ou pas, je veux dire, si ton client, il est content, that's it, t'es une entrepreneur.
Sais-tu qu'est-ce qui a contribué aussi à changer mon mindset? C'est de m'entourer, de me plonger dans un univers de gens qui partagent les mêmes mindsets. Puis là, je vais t'amener l'image la plus garderie que je peux te dire en ce moment, mais ça marche là dans ma tête. Tu sais, le fameux soit un Fruit Loops dans le bol de Cheerios, là. Tu sais, puis j'expliquais ça à mon enfant cette semaine parce qu'elle dit tout le temps qu'elle se sent pas comme les autres, qu'elle est spéciale. Puis ma fille, c'est une hyper empathe, hyper anxieuse, hyper sensible. Elle est créative, elle me ressemble beaucoup. Fait que, tu sais, je me vois à travers d'elle. Puis c'est là qu'elle a monté cette image-là. Puis ça m'a même aidé moi-même de l'aider, dans le fond. J'étais là, Marie-Lise, c'est juste que, en ce moment, tu sens le Fruit Loops dans le bol de céréales. Mais en vieillissant, là, ton bol de céréales, tu vas pouvoir aller dans le bol de Fruit Loops.
Exact, même, exact.
Même les Fruit Loops, les autres, ils ne seront pas la même couleur. C'est normal, vous allez être différents, mais au moins, vous allez vibrer ensemble sur les mêmes sujets. Tu vas te sentir plus confortable. Fait que moi, là, de sortir des gens qui avaient des pensées de jugement, tu sais, ça me dérange pas. C'est sans lourdeur. Je fais juste ça, je ne suis pas dans le bon bol de céréales. C'est même m'en va d'être d'autres Fruit Loops.
That's it.
C'est là que ça vibre.
En vieillissant, c'est ça, tu sais, mais l'affaire, c'est qu'on développe des patterns. Quand tu choisis pas ton école, tu choisis pas tant tes amis tant que t'as pas quitté, mettons, le secondaire, tu sais. Fait que tu subis un peu ton entourage, puis tu développes des patterns dans ce genre de d'environnement-là. Puis quand t'arrives plus tard, que tu dis comme, OK, je vais choisir mon entourage, moi, ça a été vraiment, vraiment, vraiment la clé, là, à un moment donné, quand j'ai fait comme, c'est quoi qui est la mesure de ma qualité de vie en 80%, c'est les gens qui m'entourent. T'sais.
Oui.
Si les gens qui t'entourent te drive pas à t'épanouir, ou bien du moins qu'ils te font pas filer
ouais. Ce
que tu veux filer. Je veux pas dire qu'il faut s'entourer de monde qui te challenge jamais, mais au contraire, de t'entourer de monde qui te challenge à t'améliorer et non pas de t'entourer de monde qui te challenge à qui essaie de te rabaisser. Ben. Tout est là.
J'aime beaucoup, j'utilise souvent les mêmes mots. Je travaille beaucoup avec l'approche Access Consciousness. Puis pour moi, les mots, c'est la nourriture de nos pensées qui vont donner nos choix. T'sais. Fait que j'ai quand même un souci par rapport au choix de mots. Puis souvent, je vais dire le mot contribution. Je choisis des gens auxquels ils sont une contribution à ma vie et que moi, je sens que je peux contribuer au leur aussi. Ça veut pas dire qu'on est pareil. Je recherche des gens qui vont chercher à être ouverts d'esprit, qui vont élever mes vibrations, même quand il y a une challenge, même quand ça me dérange, même quand ça me trigger. Je suis des gens sur Instagram qui me dérangent dans leur approche, qui ont du succès, mais je les suis pareil parce que je me dis, si elle me trigger, c'est qu'il y a quelque chose en moi qu'il faut que j'aille travailler, régler, parce que j'y retourne tout le temps à voir quand même ces maudites stories qui m'énervent, mais je me dis, j'ai quelque chose à apprendre d'elle, certainement. Fait que ça, pour moi, c'est choisir qui m'entoure. Puis tu sais, sûrement cette phrase-là, on est le reflet des 5 personnes avec qui on partage notre quotidien. Hein.
Absolument.
Fait que ça, là, quand j'ai pris conscience pleinement de ça, j'ai compris que j'étais juste pas dans le bon bol de Fruit Loops.
Exact, exact. Là, tu as abordé un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Tu dis que les mots qu'on utilise pour se parler deviennent éventuellement nos choix, tu sais. Puis je ne peux être plus d'accord, tu sais. En fait, architecture mentale, c'est que ça, c'est l'architecture de ton vocabulaire interne. Puis tu me parlais tantôt, on a effleuré le sujet là de quand il y a quelque chose qui fonctionne pas à ton goût, t'as comme la capacité de revenir à la charge parce que tu dis que ça te dérange pas de recommencer. T'as-tu un genre de slogan intérieur? Y a-tu comme, c'est quoi la phrase que tu te dis le plus souvent dans une journée?
Écoute, moi, j'utilise beaucoup Access. Là. Je pourrais dire plusieurs phrases de Access, mais tu m'amènes à te raconter, dans le fond, que tu sais, cette capacité-là d'être observateur, là, c'est tout le temps d'essayer de sortir du petit moi. Tu sais, là, j'aime ça appeler ça comme ça. Là. Souvent, on est dans nos têtes, dans nos projets, dans nos vies de famille, on est dans le petit moi. Mais je recule souvent pour voir la big picture, que dans le fond, on est tellement petit dans ce grand univers-là. Puis j'aime bien dire qu'on est juste, mais pas juste parce que c'est grandiose, mais on est que un être spirituel dans une expérience terrestre. Au final, que je me suis plantée 150 fois dans mes projets, que ça ait marché, whatever happens, je vais juste avoir vécu chaque seconde dans l'exploration des possibilités. Des fois, c'est se planter, des fois, c'est réussir, des fois, c'est broyer, des fois, c'est être vulnérable, des fois, c'est... Tu sais, I don't care. Je n'ai fait des choix douteux, là, mais je les juge pas parce que si je juge mes choix d'hier, oublie ça, là, mes choix d'aujourd'hui sont pas sécuritaires avec moi-même, là, tu sais. Fait que je ne juge pas mes choix d'hier. J'en ris, par exemple, des fois, je me dis, oh, c'était intéressant. En plein dire, je referais peut-être pas ce choix-là aujourd'hui, mais grâce au fait que je l'ai fait et que je l'ai pas jugé, j'ai la liberté de refaire des nouveaux choix, peut-être douteux aujourd'hui, mais qui vont m'amener ailleurs puis que je sais que je suis en sécurité. J'aime bien dire ma vulnérabilité est en sécurité avec moi. Et ça, c'est fucking grand. Parce que le point de la vulnérabilité, c'est d'être jamais en sécurité. En fait, c'est exactement ça le point.
Ouais, c'est ça. Tu touches quelque chose qui m'est inconnu, en fait. Ce sentiment de sécurité-là puis de vulnérabilité développe là-dessus. Je trouve ça très, très, très
ouais,
intéressant.
Ouais, ça part de Access, là. Je m'inspire beaucoup d'eux. Ils amènent le point de vue que tous les choix, tout de la vie n'est qu'un point de vue intéressant. C'est la façon d'enlever la charge énergétique du jugement. Tu sais, la lourdeur puis la genre de limitation dans un jugement. Si tu fais juste reculer, tu es observateur, puis tu fais comme, point de vue intéressant, point de vue super intéressant, puis tu fais juste passer à autre chose. Si ça soulève une lourdeur, va gratter, va chercher pourquoi. Mais si tu es capable de rester juste dans la légèreté, reste pas là, père. C'est tellement énergivore, les jugements, avec ça, se faire. Tu sais, mettons, tu me proposerais quelque chose aujourd'hui, puis je me dis, ah, je suis pas du même avis. Mais au lieu de vouloir me battre, moi, je me bats pas, c'est loin, je crie. C'est différent, là. Je vais pas me battre contre ton point de vue. C'est, t'as ton point de vue, ton histoire, t'as ta vie, t'as ton histoire. I don't know, moi, pourquoi t'as ce point de vue-là, puis ça m'intéresse pas, me battrai pas. Je vais pas me débattre. Je vais juste créer, hein, qu'est-ce que ça génère chez moi? De quelle façon ça peut contribuer? Est-ce que ce point de vue-là est vibre? Est-ce qu'il m'élève? Non, ben, fuck off, je passe au prochain point de vue. On est les humains, on est fait pour avoir des points de vue. Tout le monde va avoir des points de vue, aussi bien enlever la charge, puis d'essayer le plus possible. Des fois, il y a l'ego, des fois, ça fait mal, des fois, ça vient, tu sais, toucher des places plus sensibles. Mais en général, quand je suis capable, j'essaie de développer ça tous les jours, de faire, bon, il y a un point de vue bien intéressant. Est-ce que je l'utilise ou je le laisse aller? Puis je dépense pas de l'énergie à me battre avec les points de vue. Ça sert à rien. Fait que j'ai souvent des points de vue sur moi-même. Tu sais, l'année passée, là, c'est bien. J'étais à une étape de ma vie où ce que je venais de me délayer, tu sais, genre de me libérer de la peur du jugement. J'avais besoin d'être vue. J'ai dit, je vais faire un move de masse. J'ai fait les auditions d'Occupation Double, Sylvain.
Puis, c'est vrai.
Oui,
j'avais oublié ça.
J'ai été pris jusqu'à la dernière étape parce que, I don't know, personnalité, je cherche, j'avais quelque chose, une histoire, le storytelling, la mère, l'éveil spirituel, la séparation entre elles, tout, je sais pas, j'avais une
tout
histoire.
Tout est là, finalement. Non, moi, ça me surprend pas du tout, en fait, mais...
Je me suis rendue jusqu'à la fin, mais est-ce que je voulais vraiment y aller? Non, je voulais me tester, là, Sylvain, je voulais tester. OK, Chloé, toi, t'as tout le temps eu peur de déplaire. Et là, tu te mets dans une situation où il faut que tu plaises. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je me vois comme un Sims. Je me suis mis dans une situation puis j'ai fait, ah ouais, gère-toi la grande. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que je suis sortie de là puis j'ai pris le temps avec des mois de recul de faire comme, OK, je voulais aller tester si j'étais si solide que ça dans, maintenant, je suis alignée avec ma vulnérabilité, avec mon authenticité puis je me laisserai pas, tomber dans le piège de plaire puis de sortir d'être moi pour plaire à des juges. Fait que je me suis mis en danger, mais personne qui connaît mon histoire comprenait fuck all. La petite mère, qu'est-ce qu'elle fait là? C'était une expérience personnelle pour me tester, Sylvain, c'était ça.
C'est vraiment hot. C'est, parce qu'il y a une affaire qui me fait capoter, c'est que, tu sais, toi, tu fais une action, t'as une vision dans ta tête, t'as une vision globale de où est-ce que tu t'en vas. Je veux dire, la raison pour laquelle t'es allé faire les auditions d'Occupation Double, ça faisait du sens dans ton histoire, ça faisait du sens dans ta démarche de l'extérieur. Moi, je l'ai compris, ta démarche, by the way. Quand t'as fait ça, j'étais comme, ah, ça, c'est malade. Tu sais, parce qu'on a commencé à se parler plus dans ce temps-là, puis tu sais, mais comme, par exemple, quand moi, j'ai décidé d'aller vendre des chars, tu sais, quand j'ai décidé de devenir vendeur de char, tout le monde autour, tu sais, je me suis coupé les cheveux, je me suis mis un veston, cravate, tout le monde a fait comme « What the fuck? » Tu sais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a une personne, même mes parents, ils ont fait comme « OK, qu'est-ce qui se passe? » Il y a une personne qui a compris pourquoi je faisais ça, c'était ma blonde, parce que Gab, elle suit mes réflexions, tu sais. Mais moi, c'était complètement clair que je voulais développer mes compétences d'entrepreneur. La compétence principale d'un entrepreneur, à mon sens, c'est, oui, d'avoir de la vision, mais d'être vendeur, tu sais. C'était vraiment ça. Fait que je me suis dit, je vais devenir vendeur de char, qui est la chose la plus vente au monde. Puis je m'étais dit, il va y avoir des techniques incroyables à développer là. Et il y en a eu. J'ai tout appris. J'ai appris sur le sens de la vie, hostie, en vendant des chars. Ça a été incroyable. C'était une des plus belles expériences de ma vie, tu sais. Puis pour de l'extérieur, ça a été une bulle que j'ai eue pour bien du monde. Mais c'est pas une bulle. J'ai fait un an de ça, assez pour soutirer ce que j'avais à soutirer, me rendre compte que, regarde, je veux pas être vendeur de char dans la vie. Mais je voulais le faire. Je voulais. C'était une école. Tant qu'aller à l'école en vente, puis faire des simulations, aussi bien d'être sur le terrain puis être capable de vendre 45 000 piastres de stock à chaque vente, tu sais, puis j'étais comme OK. Fait que, mais comment tu deals maintenant avec l'incompréhension de ton entourage par rapport à ta démarche?
Ça revient à ce que je te dis, puis Sylvain, c'est pas de l'inconscience ou de la naïveté, puis je mets le point là-dessus, mais leur point de vue, c'est juste des points de vue bien intéressants. Ils n'ont pas marché mon chemin et ma vie dans mes souliers. Ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été pogné, qui est dépogné. ils savent pas, ils ont que des points de vue bien intéressants, et je dis ça avec toute la bienveillance du monde, parce que j'ai cette bienveillance-là pour les autres, je vais pas juger leur choix, je connais, je suis pas dans leurs souliers, c'est pas, ça m'appartient plus, puis ça, c'est un gros travail en tant qu'hyper empath, puis moi, j'appelle ça une forme, c'est une forme de condom énergétique que je porte maintenant, là. C'est vraiment ça, pour éviter de recevoir avec une trop de, tu sais, les jugements des autres, les points de vue, fait de choisir le point de vue bien intéressant me sort de l'ego, puis me fait prendre cette position d'observateur, puis ça fait que ça peut juste m'élever, me faire avancer, grandir. Fait que c'est, mais les gens, souvent, ils comprennent plus ou moins le point de vue bien intéressant parce qu'ils pensent que c'est une forme de... un facing de genre, je m'en calisse, m'en fous.
Non, en fait, c'est de comprendre que... moi, c'est quelque chose que j'ai compris assez jeune, en fait, mais que j'ai intégré dans les dernières années, c'est que il n'y a, du moins du point de vue de l'humain, là, il n'y a que des points de vue.
Mais oui.
Il n'y a personne qui a une vision objective de rien. Là. On peut avoir une idée de ce que c'est l'objectivité, mais il reste que on vit la vie selon notre subjectivité, puis on est pris dans notre propre point de vue. Fait que quelqu'un qui va te dire comme « Non, non, t'es dans le champ », je suis dans le champ par rapport aux autres, peut-être, mais par rapport à moi, ça fait complètement du sens. Et je ne vais pas aborder ce sujet-là parce que je suis vraiment pas compétent pour l'aborder, mais ça me fait penser à... Moi, une des maladies qui me fascine le plus, c'est la schizophrénie, tu sais.
Ah oui.
J'ai une amie qui a travaillé avec des schizophrènes. Puis tu sais, je connais pas cette maladie-là, je peux pas vraiment en parler tant que ça, mais il y a une question que je me pose, c'est que cette personne-là, on vive la réalité d'une façon complètement différente des autres, mais qui pour eux fait 100% du sens, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, s'il n'y a que des points de vue, si tu as un point de vue qui est dissocié, qui est différent de celui des autres, c'est juste parce qu'il est différent de celui des autres, tu sais, qui est...
Pour moi, il y a une richesse puis une conscience extrême quand on reste dans le point de vue bien intéressant parce qu'on enlève les émotions. Il y a un partage qui devient présent, là. Il y a un espace de possibilités qui se dégage du point de vue bien intéressant plutôt que du jugement. Puis ça, c'est comme ça que je veux vivre ma vie.
Exact.
C'est ça que je veux.
En fait, c'est de se désidentifier de ton point de vue, du moins, de diminuer l'importance que ça a pour toi. Tu sais, comme dire, comme, non, c'est de mal, puis l'autre, il a pas. La manière, c'est comme, non, non, tout le monde a raison à quelque part. Tu sais. Le monde, tu sais, lui, son argument a pas raison dans ta sphère, dans ton univers à toi, mais dans le sien, ça marche au bout. Tu sais. Puis c'est ce qui est le problème des conflits interpersonnels. Tu sais. C'est ce qui est difficile, c'est de réconcilier deux points de vue diamétralement opposés. Puis par rapport à ça, c'est quoi? Mettons, on parlait de s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que tu choisis ton entourage 100%? Mettons, je te parle de ton entourage proche, OK? Les gens que tu as comme clairés dans ta vie. Est-ce que tu vas choisir des personnes qui te ressemblent ou tu vas choisir des personnes qui te ressemblent dans une certaine proportion?
Ouais.
Ou c'est de quelle façon est-ce que tu détermines ton entourage? Ou sur quel point tu aimes être challengé, je dirais?
Ouais. Je pense que le mot d'ordre pour moi, pour les gens qui m'entourent, tu peux être qui tu veux, faire le métier que tu veux, je laisse être, je suis beaucoup dans le laisser être, mais pour que ce soit enrichissant pour moi, il faut que ce soit quelqu'un qui est ouvert. C'est juste ça. Okay. Si tu es ouvert à recevoir des points de vue différents qui sortent de la boîte, si tu es ouvert à être inconfortable, l'ouverture, pour moi, c'est la base parce que c'est là que l'espace de croissance et l'ouverture. Quelqu'un qui a des points de vue fermés, je vais me fermer puis je vais pas embarquer, je vais pas échanger avec quelqu'un qui est trop fermé. Si t'as quelque chose à m'apprendre, mon Dieu, je vais être la première là, à vouloir t'écouter puis vouloir grandir, mais si c'est quelqu'un qui fait juste débattre pour débattre, moi, I'm out. Je pars mon temps, l'énergie va. Fait que n'importe qui est ouvert, qui a quelque chose de spécial. Moi, j'aime beaucoup les bébites, là. Sur Instagram, là, ça, c'est une affaire aussi. Les réseaux sociaux, ça prend tellement de place. Moi, j'ai pris contrôle de qu'est-ce que je suis puis qu'est-ce que je suis pas. Et je suis beaucoup de bébites, des mères entrepreneurs québécoises comme moi qui ont des sujets flyés, là, des fois, à aborder. Christy, c'est eux autres que je vais aller suivre parce qu'ils me stimulent dans des points que moi, j'avais même pas. J'étais dans l'incompétence inconsciente. Je savais même pas que je savais pas que ça existait, cette affaire-là. Ça, là, oh, ça, c'est orgasmique, là. Je m'entoure juste de monde de même. Autour de moi, ben, c'est un peu ça que j'attire aussi, mais Puis tu sais, dans la vie de couple, c'est autre chose. Je sais que vous, vous êtes deux artistes. Moi, dans ma vie de couple, c'est pas ça qui était requis. Puis ça, c'est une de mes forces aussi, de me connaître assez, ou du moins aujourd'hui, ici et maintenant, avec mes besoins du moment, de faire... Moi, je suis une folle qui se promène d'un projet, qui a des idées, qui est une visionnaire. J'ai besoin dans mon couple quelqu'un qui est solide, à qui je peux aller arrêter d'être un peu une âme errante là, dans mes projets, puis aller me poser... il a fallu que j'expérimente ça, Sylvain. On s'est séparés, Renaud et moi, on n'a pas eu le choix parce que lui, c'était fréquent pour lui de voir sa femme des 13 dernières années qui était telle que j'étais. Versus là, j'étais en gros déploiement, je me mets à parler de lune, puis d'astrologie, puis de conscience, puis d'esprit. Imagine comment c'est challengeant pour un conjoint quand la personne que t'aimes fait un volte-face, pam, trois, un gros 180. Moi, je suis quelqu'un d'autre finalement, là. Puis c'est ça que je veux être. Fait qu'il a fallu créer, j'appelle ça perdre pour tout gagner, là. J'ai pas eu peur de ça. La seule affaire, j'ai peur réellement, Sylvain, c'est mes enfants, leur santé, leur sécurité. Mais le reste, là, c'est juste des petites peurs, là, de jugement. Pas de ça, là, ça se défait. La peur pour la sécurité de mes enfants, là, j'ai pas le contrôle. Ça me fait peur. Ça fait peur.
Je pense que c'est sain que ça fasse peur aussi, dans le sens que protéger la sécurité des gens, c'est comme...
Ah, c'est ma seule vraie peur, c'est ça. Mais le reste, j'ai pas eu peur de tout décalisser ma vie. C'est vraiment ça qui est arrivé. Okay. Parce que j'avais un appel plus grand de quelque chose qui était vraiment vrai pour moi. Puis à partir du moment où j'ai pris la décision, où je me suis permis d'être vraiment moi, il a fallu que je divorce, non pas seulement de mon conjoint, mais des parties de moi qui étaient comme cimentées dans cette relation-là pour pouvoir recréer qui je veux être. Puis j'ai été chanceuse dans mon histoire, dans ma présence, c'est ce qui se passe, mais ça a quand même permis que ce divorce-là de moi et de mon conjoint nous ramène de façon plus solide pour la suite. Ça, c'est, je sais pas si c'est une luck, je sais pas si je l'ai créé, si je l'ai attiré, ça aurait pu péter carrément. Nous, on s'est retrouvés un an plus tard, mais il a fallu que j'explore. Puis quand tu connais des gens différents de ce que tu as connu des 13 dernières années, puis là, c'est fucking vulnérable. Qu'est-ce que je te raconte là, moi, là?
C'est correct. En fait, tu me le dis si jamais t'es pas à l'aise que je le mette, mais je trouve ça tellement inspirant, tu sais, je trouve ça vraiment hot.
Tu sais, j'avais un choix, Sylvain, là. J'avais un choix, là. Ça faisait plusieurs années que je sentais un feu bouillonnant en moi qui m'amenait à plus grand. Tu sais, on parle souvent de lumière, d'énergie, d'objectif, de mission. Moi, c'est comme ça que je le nomme.
J'aimerais ça. Je veux mettre des mots plus pragmatiques sur ça. Je comprends. Parce que j'ai ça aussi, là. Est-ce que... Je veux pas que tu aies peur de sonner prétentieuse, OK? Je ne crois pas qu'une personne est prétentieuse. Est-ce que tu as le feeling... comment je te dirais bien ça?
On dirait que c'est déjà ta réponse. On dirait que c'est ta question.
T'as-tu le feeling que tu es mis sur Terre pour faire de quoi de big?
Ouais, ça me tente de croire ça. J'ai envie d'avoir ce point de vue-là. Ouais. Je pense aussi, par rapport à nos points de vue, là, tu sais, les points de vue qu'on a, qu'on nourrit là, dans notre tête, c'est sûr qu'ils vont créer notre réalité par la suite. Parce que si j'ai le point de vue que je suis de la merde, on m'a sûrement créé de la merde. Si j'ai le point de vue que j'ai un potentiel, je sais pas pour qui, quand, comment, mais je le sais qu'il est là et qu'il va servir à contribuer d'une certaine façon. Si j'ai ce point de vue-là, c'est sûr que je vais réussir à créer quelque chose qui va m'amener dans cette direction-là. Nos points de vue créent notre réalité.
Exactement.
Oui, j'ai envie de croire ça, que j'ai sûrement un message ou quelque chose à transmettre de façon
humble. Il y a une croyance, il y a un adage que j'ai lu quelque part, je ne me souviens pas, qui dit « Dans vie, il n'y a rien d'impossible. » Et ça, c'est pas vrai, mais il n'y a pas un mensonge plus puissant que celui-là. Je trouve ça écœurant parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses impossibles sur la Terre, mais si tu crois qu'il n'y a rien d'impossible, tu vas faire des actions beaucoup plus ambitieuses et grandioses que quelqu'un. Autrement dit, j'aime bien mieux être un optimiste dans l'action que d'être un réaliste. Tu sais, je veux dire, la personne qui est optimiste va faire des choses, va essayer de faire des choses impossibles, puis en bout de ligne, va finir par faire des choses que les gens pensaient impossibles, tu sais. Tandis que si t'es toujours réaliste, ça se peut pas, ça se peut pas, ben à un moment donné, tu restes dans le confinement des possibilités que tout le monde a déjà préétablies, tu sais.
Ouais. Tu sais, tu m'as demandé si j'ai ce point de vue-là par rapport à moi, mais en réalité, j'ai le point de vue que tout le monde est né pour faire sa magie, peu importe l'ampleur que pour lui ça représente. Mais je pense qu'on est tous nés avec ce feu-là. Puis il y en a pour qui le 8 à 4. Tu sais, là, je trouve que faut faire attention. Je trouve dernièrement, là, dans le discours que je lis beaucoup, que je vois, ça démonise beaucoup le 8 à 4 puis le boule. Mais il y a tellement des gens pour qui c'est ça qui est requis.
Oui, absolument. Exactement. Tu sais, je connais du monde. Moi, personnellement, je meurs à petit feu quand je suis là-dedans. Mais j'ai un ami, justement, qui est arrivé à un point dans sa vie qu'il a essayé de partir des projets. Puis tout, à un moment donné, il a fait comme non. Moi, je veux travailler de 8h à 4h. Puis il a trouvé ce qu'il faisait triper. Il a trouvé le projet qu'il faisait. Puis là, écoute, je le vois s'épanouir. Sa santé s'améliore. Il est plus de bonne humeur. Il fait des super beaux choix. À un moment donné, c'est comme, oh oui, faut, autrement dit, c'est de trouver ce qui de trouver ta cause, tu sais. Ouais. Puis...
C'est pour ça, tantôt, je te disais les mots que je choisis. Moi, j'utilise beaucoup le mot « requis ». Qu'est-ce qui est requis pour toi? Pas qu'est-ce que tu as besoin ou qu'est-ce que tu veux, parce que souvent, ce que tu veux, tu le crées à partir de ton passé, tes connaissances, tes peurs. Ce que tu veux, c'est une affaire, mais qu'est-ce qui est requis? C'est vraiment différent et beaucoup plus puissant pour t'aligner avec ton authenticité et de ce qui est vraiment est requis. Il y en a pour qui le 8 à 4, c'est requis. Moi, je me connais assez, j'ai développé assez ma conscience, j'ai exploré assez pour savoir si ce n'est pas ça qui est requis. Mais quand tu t'alignes avec ce qui est réellement requis, tu dégages l'ego, là, tu restes dans le percevoir. Puis ça, c'est d'autres mots que j'aime choisir. Parce que là, on parle d'architecture mentale, mais moi, j'essaie beaucoup de sortir de mon mental puis de me connecter avec mon percevoir, là. T'sais, dans mon énergie, puis mon savoir, mais pas le savoir ici, ce que je sais ici. Fait, oui, je sais ici que j'ai un potentiel quelconque, que je ne sais pas encore exactement comment il va se déployer. Je n'ai pas besoin, parce que je le sais qu'il est là, puis je le nourris d'une certaine façon en faisant des choix tous les jours. Fait, je change mon mental, je perçois, je sais qu'est-ce qui est requis. Ça fait qu'à chaque jour, je finis ma journée, puis j'ai fait qu'est-ce qui était requis aujourd'hui. Puis je me sens bien, je suis heureuse. Si je meurs demain matin, ben au moins, je vais avoir fait ce qui était requis dans le moment présent. Fait que, t'as ça. Je sais pas si tu me suis là-dessus, là.
Oui, mais je te suis à 100%.
C'est mon langage un peu spirituel. Ça me permet de sortir de l'anxiété. Ça me permet de sortir des décisions trop overthink, ou que tu overthink au lieu de suivre ton intuition, tu sais, le percevoir, le savoir. Puis tu sais, je parle la langue des signes, fait que là, automatiquement, tu dois ressentir que je gesticule à bon
moment.
Mais c'est que j'aime montrer le savoir ici versus le savoir ici, c'est pas la même affaire. Puis j'essaye de nourrir plus l'être que l'humain. Tu sais, pour moi, l'être, c'est la magie, la lumière, le spirituel, c'est l'intuition, c'est on peut pas le voir. L'humain, ça va être les blessures, le passé, les limites, le jugement, l'anxiété, tous les irritants, là, si on veut, qu'on traîne. J'essaie de nourrir plus l'être que l'humain, puis de les faire co-créer ensemble en étant pleinement conscience de « OK, ben moi, dans mon humain, j'ai traîné ça. Est-ce que c'est encore requis aujourd'hui? » Des fois, il faut faire des mises à jour. Et ça, les mises à jour, Sylvain, c'est mon sujet du moment. Parce que des fois, ton être... Il est prêt à quelque chose, mais tu n'as pas fait la mise à jour avec l'humain. Ce qui fait que là, les deux ne cohabitent pas, ils ne t'avancent pas. Tu es comme, voyons, je suis prêt, mais ça ne marche pas. Fais ta mise à jour. Va y dire à ton body et ton corps.
De quelle façon tu fais ça, concrètement?
J'y parle, Sylvain. J'y pose des questions. Et j'ai découvert aussi la méditation dansée, la méditation pleine conscience. Parce que pour moi, en tant qu'hyperactive, rester assis sur mes fesses pour méditer, pas capable. Ben,
c'est malade. Justement, je parlais à ton frère, Jasmin, de tout ça, tu sais, parce que on s'en fout de la position de ce que tu fais pendant que tu es conscient de ce qui se passe dans le présent, tu sais. Puis le présent, c'est la porte d'entrée pour toute modification que tu veux faire en dedans de toi, tu sais. Puis à un moment donné, ben moi-même, tu sais, je suis un gars qui a médité beaucoup assis, mais mes états les plus « groundés » que j'ai eus, ça a été en marchant. Ça a été toujours en marchant. Tu sais, quand j'étais assis, c'était comme ça a toujours été un effort. J'arrive à un certain stade méditatif où je suis relativement dans le présent, mais des moments où je suis en train de marcher, puis que là, je pratique la pleine conscience en marchant, puis que là, je regarde mon entourage, puis je suis comme, OK, là, présentement, il n'y en a pas d'ego, il n'y a rien que ça.
C'est fait beau,
ça! Ouais, c'est malade, mais c'est ça.
Fait
qu'en bougeant, c'est aussi valide que s'asseoir en position du lotus. Là, de toute façon, je ne suis pas capable de faire la position du lotus.
Tu sais, tantôt, tu disais, ouais, mes méditations, mon truc, là, Sylvain, c'est que je me pose beaucoup de questions, des questions ouvertes, et j'essaye de tasser l'humain qui va vouloir répondre ici avec le mental.
Okay.
J'en cherche pas de réponse. Je les laisse monter dans l'énergie. Puis ça, c'est la twist, parce que des fois, on va regarder, on va dire, hey, c'est étrange ce que tu me dis, Chloé, je comprends pas, parce que je pose beaucoup de questions, mais je cherche pas réellement les réponses. Mais non, quand tu poses la question, là, tu viens d'ouvrir, tu sais, t'es comme un couloir, toutes les portes sont fermées. Tu poses la question, tu viens d'ouvrir plein de portes, puis là, à un moment donné, ton aide va se promener, il va s'en aller, ou ce que la réponse qui est requise, ou ton intuition va te guider. Fait je pose beaucoup de questions, genre.
Tu viens de toucher un mot que je trouve incroyable, l'intuition, OK?
Ouais.
On a, à quelque part, dans le siècle des Lumières, on a décidé de mettre l'intuition dans le panier de la superstition, alors que c'est une des facultés qu'on a, tu sais, c'est une faculté incroyable d'arriver à reconnecter avec ça. Moi, personnellement, je me sens complètement déconnecté de mon intuition. J'ai des moments où je le feel, mais il y a un penseur que je suis beaucoup qui s'appelle Terence McKenna qui parle justement de ça, qui revendique le retour de l'intuition en tant que faculté reconnue, tu sais. Et puis, c'est tout un domaine, puis c'est tout un autre aspect je pense que l'intuition mérite d'être scientifisée. Je ne sais pas si on peut dire ce terme-là. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, à un moment donné, tu as le feeling, tu as quelque chose, tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi, mais ça s'en va vers ça, tu sais. Puis pourquoi, mettons, t'es inconfortable dans une situation X que tu sens exactement, par exemple, l'appel de faire quelque chose de big qu'on parlait tantôt, c'est une intuition. Je veux dire, t'as pas nécessairement... Si tu te mets à rationaliser cette affaire-là, de dire, j'ai plus de talent que les autres, donc je vais faire... Là, tu fais comme, non, j'ai pas tant plus de talent que les autres, j'ai pas tant plus de personnalité que les autres. Puis là, tu te mets à rationaliser, t'es tout à fait comme les autres. Mais c'est cette espèce d'intuition-là que t'es faite pour quelque chose de big qui va te driver, tu sais, c'est incroyable.
Je pense qu'il prend... J'y laisse beaucoup de place. Tu me fais réaliser, là... Tu sais, là, quand est-ce que tu sais qu'un projet est fini, là? Tu sais, quand est-ce que tu sais que tu as été au bout? Moi, j'ai fait des ongles pendant 4 ans, OK? À un moment donné, mon intuition m'a dit, c'est fini. Puis après ça, j'ai eu le goût d'aller faire une formation de telle affaire. Bien, je pense que je laisse beaucoup mon intuition. Quand le plaisir part, là, mon intuition va faire, c'est fini, va ailleurs. Je lis beaucoup mes choix par le plaisir. Puis ça, je vais faire un coucou à mon ami Steph Turcotte, qui est neuropotentialiste.
On va l'avoir ici, Steph, aussi.
Elle a dit souvent cette phrase-là, puis je pense que je l'ai dit au début, on n'est pas venu sur la planète Terre pour que ce soit long puis plate. C'est ça, sa phrase. Elle dit tout le temps ça. On n'est pas venu ici pour que ce soit long puis plate. Là. Quand c'est lourd, il y a une lourdeur, vérifie premièrement si c'est à toi, là, cette lourdeur-là, ou si tu l'as peut-être captée de l'extérieur, hein, en tant qu'hyper-empath. Ouais. Après ça, si c'est lourd, OK, bon, mais va déblayer, mais souvent, tu vas choisir la légèreté, tu vas choisir le plaisir. On n'est pas venu pour que ce soit long et plat. C'est chiant, t'es pogné, puis tu te rends compte que c'est énergivore à un endroit où que même si tu te bats avec ça, au final, ça n'aura pas élevé tes fréquences, ça n'aura pas élevé tes vibrations. Fuck off, va vers la légèreté. Puis il y a certains gens qui pourraient avoir le point de vue, tu vois, là, je suis allée dans l'autre. T'as-tu vu que je viens de faire? Je parlais de mon point de vue, puis là, je suis allée dans « Ah, oh, je vais aller tout de suite dire ce que je pense que les gens pourraient penser. »
Ah, mais c'est cool, parfait.
Mais c'est quand même... ça. Puis là, ma psy, elle m'aurait dit ça. « Oh, t'es en train d'aller dans l'autre, là, tu le juges avant que l'autre le fasse. »
Ah, mais en même temps, moi, du point de vue du podcast, c'est le fun, parce que j'aime ça qu'on expose toutes les... Parce que moi aussi, je les entends, ces gens-là, là, présentement.
On les entend tous. Puis je trouve que ça, c'est une force aussi là, d'être capable de faire comme on vit notre moment. Là, j'enregistre un podcast avec toi, je parle, mais je m'entends. Puis là, je fais comme, ah oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Je me corrige tout de suite. J'essaie d'être autodidacte rapidement. J'essaie de sortir du pilote automatique. Ça aussi, c'est une affaire qui est tellement importante. En tout cas,
bref. Oui.
Fait que, ouais, les gens peuvent penser que quand on... Qu'est-ce que je disais?
Je ne sais pas ce que tu allais dire exactement, mais pour renchérir à ce que par rapport à ce que les gens peuvent penser par rapport mettons, à des croyances un peu plus ésotériques puis tout ça, moi, ma philosophie par rapport à ça, c'est j'en ai rien à foutre de ce que tu crois. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ce que tu crois te fait faire comme action. C'est ça qui est important. Tu sais, je veux dire, si t'aides, exemple, les sans-abri parce que pour toi, le système politique a pas de bon sens puis il faut venir en aide à ce monde-là, ou bien si t'aides les sans-abri parce que tu veux t'acheter des bonnes grâces pour ta future vie, whatever, j'en ai rien à cirer. est-ce que tu es en train d'aider ces gens-là? Oui. Est-ce que, peu importe le moteur, l'action concrète qui te motive à faire ça, le résultat est là, tu sais. Fait que, moi, j'ai un ami à moi qui est hyper. On parlait tantôt de gens fermés, là. Lui, la majorité des gens pensent qu'il est fermé, OK? Mais il l'est pas du tout. Il est incroyablement sceptique, mais quand que. En fait, il croit que 1 plus 1, ça fait 2. Puis quand tu réussis à y démontrer que dans ta philosophie, 1 plus 1, ça fait 2, il switch de bord. Il
est comme, okay,
tac, je te crois. Tu sais, j'adore discuter avec ce gars-là.
T'sais, moi, je travaille dans le domaine de la danse, puis souvent, je vais parler de la flexibilité de l'âme, la flexibilité de la conscience. Fait que ça, là, les gens qui sont flexibles, là, que les points de vue peuvent changer à tout moment, là, moi, ouais. C'est orgasmique, ça, là. C'est ça qui est
ce que
beau.
J'aime de ce gars-là, c'est qu'il change de point de vue, mais pas pour rien, tu sais. C'est mais comme, faut que tu sois capable de le faire changer de point de vue. Fait que moi, j'ai les meilleurs arguments que j'ai avec, c'est avec ce gars-là, parce que il me challenge, tu sais. Maintenant, j'ai une telle croyance, j'ai telle affaire, j'arrive, puis là, il me dit, ouais, mais pourquoi ça? Attends une minute, là, toi, là.
Puis
il me pousse à augmenter mon argumentaire, tu sais.
C'est toujours ça qui ramène à dire, quand on reste dans l'ouverture de la conscience puis des possibilités infinies puis que tout n'est qu'un point de vue, c'est là que la magie, elle se passe. C'est là qu'il y a une vulnérabilité parce que les gens pensent que la vulnérabilité, c'est mal, là, qu'il faut se protéger puis qu'il faut pas être blessé. Fait que tu montes, tu sais, tu ériges des barrières autour de ta vulnérabilité, mais au final, qui reste seul en arrière ces barrières-là? C'est toi! Wow. C'est ça qui me fascine, là. Les gens se protègent, mais quand tu abaisses ça puis tu fais, ben oui, je suis vulnérable, moi, j'avais un point de vue. Tu vas penser peut-être que là, je suis facile et manipulable parce que je vais changer d'idée. Ah, quel point de vue limitant! Plutôt que de faire, OK, je suis vulnérable, mais je suis ouverte à changer. Ça me plaît, ça m'excite même d'en parler. Wow! More of that! Sérieux?
C'est malade.
Là, comme ça, là.
Chloé Blanchette, où est-ce qu'on peut te suivre?
Oui, mais là, vous pouvez me suivre à plein de places parce que j'ai beaucoup de projets actuellement. Mais ma centrale de communication, c'est vraiment ce que moi j'ai appelé mon blog de Chloé, la partageuse d'étincelles de bonheur, parce que vous avez peut-être remarqué, c'est ça moi que j'aime, les paillettes,
oui.
Le sparkle, l'énergie. Alors, Instagram, Chloé, partageuse d'étincelles de bonheur, puis après ça, tous les liens sont là vers ma compagnie du studio Amplitude, qui aura un pignon sur rue à Trois-Rivières sous peu, pour suivre des cours de développement de l'aisance par le mouvement dansé, parce que moi, Sylvain, je dis pas mes enfants. Parce qu'on met quoi en forme de quoi? Hein? On met quoi en forme de quoi? Ça m'écarte. Fait que moi, j'appelle ça développement de l'aisance par le mouvement dansé. Puis ensuite, j'ai aussi une compagnie de produits de soins corporels naturels, Eleonora, pour s'honorer. Fait que tout est là. Merci tellement!
C'est malade. Merci, Chloé. C'était vraiment un plaisir. Puis on se voit quelque part sur un coin de rue pas loin de chez nous. Merci tout le monde.
On aurait pu parler 800 heures. Ça aurait eu.
Oui, je sais. Ben, on va le refaire. C'est ça qui est le fun de ce podcast-là. Puis éventuellement, on va le faire en vrai. Là, tu sais, on va finir par avoir un décor. Puis tout, là, ça va être malade. Yes, sir. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté ça. N'oubliez pas d'aller suivre Chloé Blanchette. N'oubliez pas non plus de choisir vos pensées et de choisir votre vie. Ciao!
Oh!